les enseignants de la province éducationnelle et pestée Kwilu 1 observent une grève sèche depuis lundi dernier. Ils réclament le paiement de leur salaire de 36 mois qui, selon eux, sont coupés illégalement par les services de contrôle de paie des enseignants. Dans le Haut-Katanga, les enseignants des quelques écoles conventionnées catholiques de la ville de Lubumbashi ont amorcé un mouvement de grève depuis lundi également. Ils affirment ne pas être bien payés. Au Maniema, certains enseignants de Kindu jugent utopique la gratuité de l'enseignement des bases. Pour eux, cette disposition est irréalisable dans l'immédiat. Deux mois après sa mise en application, quelle évaluation faire de la gratuité de l'enseignement? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mercredi 6 novembre 2019. Et pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats Raymond Kabongo, cadre du parti politique UDPS. Monsieur Raymond Kabongo, bonsoir.
Bonsoir Madame Coupé.
Jean Bosco Pouna, secrétaire général du syndicat national des enseignants des écoles conventionnées catholiques, SINECAT en sigle. Il est aussi porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants de la RDC. Monsieur Pouna, bonsoir.
Bonsoir Madame.
Et Jean-Marie Tantoumey, promoteur du bureau d'action et d'éveil culturel, UNASBEL d'éducation civique et culturelle. Monsieur Tantoumey, bonsoir.
Bonsoir Madame.
Les auditeurs, vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Gracie Manzongo depuis Kinshasa. Nous savons que la gratuité de l'enseignement est une exigence constitutionnelle, mais sa mise en application demande une certaine organisation au préalable, ce qui revient à dire qu'une simple volonté politique ne suffit pas. José Onésime Akananga, à mon humble avis, je trouve que toutes ces écoles qui décrètent la grève dans leurs écoles respectives sont parmi ceux-là, celles-là qui veulent faire échec à la gratuité de l'enseignement. Le gouvernement central doit mettre en place un comité de suivi et qui sera capable de détecter toute organisation qui ne soutient pas la gratuité. Merci de nous suivre à Kinshasa sous la 103.5. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Je l'ai dit dans mon introduction à Bandunduville, les agents de l'enseignement primaire, secondaire et technique du Kwilu 1 sont en grève sèche depuis lundi. Ils ont lancé ce mouvement après plusieurs démarches et réclamations auprès des autorités provinciales et nationales qui n'ont pas abouti. Ils réclament le paiement des 36 mois de salaire qui, selon eux, sont coupés illégalement par les services de contrôle des paies des enseignants, SECOP. Les manifestants fustigent plutôt les silences que gardent les autorités sur cette question. Irène Mboma nous en dit plus.
Une affluence des agents et fonctionnaires de l'EPST Kwilu 1, candidat des slogans Kaliko Amé, ont manifesté devant le cabinet du ministre provincial Eric Muziazia. Sur ces Kaliko, on pouvait lire « Nous réclamons nos 36 mois de salaire car travail égale argent ». L'entrée principale ainsi que les portes des bureaux du province, de l'IPP et autres, situées à quelques mètres de là, sont restées scellées. Parmi les manifestants lésés, il y a des agents de la direction provinciale de l'EPST, du SECOP, de l'inspection principale provinciale ainsi que de différentes coordinations.
Nous sommes des agents de l'EPST, tant de la direction provinciale, de l'inspection, du SECOP et même de coordination. Pendant 36 mois impayés, pourquoi ça? On nous a élagué de listing de paix illégalement et injustement pour une cause que nous ne connaissons pas exactement. Pourquoi? Nous ne sommes pas de nouvelles unités, nous ne sommes pas des NP. Mais nous sommes dans les gens qui touchaient le salaire.
Le ministre provincial qui devait s'adresser aux manifestants est resté dans son bureau de travail et ne leur a pas parlé. Nos efforts pour l'atteindre sont restés vains. Bandunduville, Irène Mboma, Radio Okapi.
Merci Irène Mboma pour tous ces détails. Raymond Kabongo, je rappelle que vous êtes cadre du parti politique UDPS. Vous revenez d'une mission dans le Kivu sur justement le fonctionnement de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Vous venez de suivre dans ce reportage depuis lundi les enseignants de la province éducationnelle et pestée Kwilu 1 observent une grève sèche depuis lundi dernier. Même cas dans le Haut-Katanga où certaines écoles conventionnées catholiques ont amorcé amorcer aussi un mouvement de grève au Maniema. Les enseignants jugent utopique la gratuité de l'enseignement. Pour eux, cette disposition est irréalisable dans l'immédiat. 2 mois après sa mise en application, quelle évaluation vous faites, Raymond Kabongo, de la gratuité de l'enseignement en RDC?
Merci beaucoup, madame, pour cette question. Merci aussi de m'associer à ce débat, qui est très important pour moi, dans le sens où, effectivement, je viens de faire une restitution d'une étude commandée par la Banque mondiale dans le cadre du cadrage de la stratégie sectorielle éducation et formation. Et donc, on a apporté des éléments nouveaux, un éclairage nouveau par rapport à cette stratégie-là. Et là-dedans, effectivement, il a été question de cette difficile transition vers la gratuité de l'éducation. Je pense aussi que d'emblée, j'aimerais qu'on puisse ne pas associer tout mouvement qui serait dans le service éducationnel et l'associer directement avec la gratuité de l'éducation. J'ai suivi qu'il y a des gens qui sont impayés pendant 36 mois. Je ne vois pas qu'est-ce que ça vient faire avec la gratuité de l'éducation. Et donc, un mouvement de cette nature, il y en aura toujours tant que nécessairement il faudrait. Aujourd'hui qu'il y a une grabuge, aujourd'hui qu'il y a un petit, je veux dire que les gens s'élèvent pour peut-être revendiquer leur droit le plus naturel et de la façon la plus légitime de pouvoir associer ça à la gratuité de l'éducation. Qu'est-ce qu'on fait comme bilan aujourd'hui, 2 mois après la mise en place de cette approche? D'abord, il faut reconnaître, je l'ai entendu dans votre intitulé, dans votre d'entrée de jeu, par un autre auditeur qui aurait dit tout simplement que c'était de pouvoir d'abord respecter une disposition constitutionnelle. On doit comprendre ça de cette manière-là. Mais aussi, on doit comprendre de la façon qu'il fallait revenir à la manière de fonctionner normalement. Vous savez, quand l'enseignement est pris en charge par le parent, en fait, l'enseignement devient privé. Il n'est plus public. Et il n'y a même plus raison de pouvoir appeler certaines écoles des écoles publiques, parce que l'enseignement est pris à 80 et 70% des dépenses de l'enseignement national de l'éducation sont prises en charge par le parent, étaient prises en charge par le parent. Revenir à la norme, revenir à une pratique normale comme ça se fait dans plusieurs autres pays, ne devrait pas aujourd'hui être un sujet pour lequel certains politiques s'élèvent et de pouvoir politiser ces débats-là. Nous nous inscrivons ici dans un processus. Un processus, certes, difficile. Parce que, dois-je rappeler aux gens que la gratuité a toujours existé dans ce pays, jusque dans les années 90, ou pour une mauvaise gouvernance, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Nous allons tomber dans un dévers, nous allons tomber dans un revers qu'il faut à la fois corriger. Est-ce qu'il fallait une volonté politique pour cela? Oui, il faut une volonté politique pour cela. Est-ce qu'il fallait les décréter aussi péremptoirement que ça a été fait? Nous pensons qu'il fallait d'abord commencer par dire que nous avons droit à pouvoir bénéficier et faire bénéficier à nos enfants et surtout aux familles la gratuité de l'éducation. Pourquoi?
Sans étude préalable pour voir si ça marchera ou pas?
Madame, des études ont été faites là-dessus. Je vous parle d'une stratégie qui date, sectorielle, qui date de 2016. Et là-dedans, il y avait des études sur la gratuité. Certaines dimensions n'ont pas été prises. Par exemple, en termes de diversité provinciale, je peux être d'accord avec vous. C'est cette dimension que nous introduisons, nous, aujourd'hui, dans les cadrages que nous apportons. Parce que toutes les provinces ne sont pas logées à la même enseigne. Elles sont différentes selon qu'il s'agit d'une province riche ou d'une province pauvre. Et donc, il fallait tenir compte de la plupart de ces éléments qui n'ont pas été tenus compte dans la stratégie. Nous l'encadrons dans le cadrage que nous avons proposé au ministère de l'EPST. Et donc, en fonction de cela, nous disons ceci. Nous avons des objectifs ODD4 qu'il faut atteindre. L'accès à l'enseignement de base pour tous les enfants, dès l'âge pour aller à l'école. Comment vous allez atteindre cet objectif si vous ne revenez pas au fait, aux fondamentaux qui font que l'accès à cet enseignement ne doit pas être pris en charge par les parents? Nous allons fonctionner dans un pays où seuls les riches peuvent envoyer leurs enfants à l'école. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte ce qui serait comme difficulté dans les années qui vont venir.
Vous reconnaissez au moins, monsieur,
Allez-y. Je vais peut-être terminer par là. Nous n'avons pas tenu compte de la pression démographique qu'exerce cette dimension sur les politiques publiques. C'est une erreur monumentale. parce que les gens margueront peut-être par le fait que avant on pouvait prétendre à une gratuité tout simplement parce que la demande n'était pas aussi forte et l'offre n'était pas aussi restreinte et l'espace budgétaire n'était pas aussi restreint qu'il est aujourd'hui. Je peux être d'accord avec cela, mais je crois qu'il va falloir qu'on commence avec toutes les difficultés qui peuvent générer une réforme de cette nature-là et de corriger au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer. Et je pense que moi, je m'inscris dans cette logique-là, dans cette volonté du chef de l'État d'avoir décidé, d'avoir eu cette volonté politique d'aller dans ce sens pour tout simplement obéir au fait que, voilà, le peuple d'abord, et le peuple, c'est le petit peuple qui ne sait pas envoyer son enfant à l'école parce qu'il manque les frais scolaires à pouvoir faire que cet enfant commence l'école.
Alors, M. Raymond Kabongori, tiens, pour vous que pour le moment, 2 mois après, cette transition est quand même assez difficile, mais vous gardez espoir que ça va aller dans les mois à venir.
Oui, madame, j'aimerais tout simplement que vous voyez l'étendue du pays. Et par rapport au problème que vous soulevez, je crois qu'il est résiduel. Je ne pense pas. En fait, la majorité, la grande partie de cette situation, elle est plutôt favorable. Nous avons des problèmes résiduels. Essayez de peut-être de faire cette manière-là, au lieu de prendre tout simplement des petits problèmes résiduels et d'en généraliser.
Merci.
En général, ça se passe bien.
Merci.
Vous en rendrez compte, sûrement.
Merci, Raymond Kabongo. Jean Bosco Pouna, secrétaire général du Syndicat national des enseignants des écoles conventionnées catholiques, Synecat en sigle. Vous êtes aussi porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants de la RDC. 2 mois après sa mise en application, quelle est, selon vous, quelle évaluation vous faites sur la gratuité de l'enseignement? Est-ce que ça évolue bien? Ça se passe bien à travers la RDC, comme l'a dit M. Raymond Kabongo.
Oui, madame, merci beaucoup. Mais nous devons faire l'évaluation ici à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est celui qui nous laisse voir que la majorité d'écoles fonctionnent normalement, bien sûr, avec les problèmes des effectifs pléthoriques, mais les enseignants sont là au poste. Et donc, par rapport à ce premier niveau, la gratuité a été très bien accueillie par la majorité d'écoles et par la majorité d'enseignants. Maintenant, au deuxième niveau, c'est le niveau qui nous fait voir que certaines écoles, peut-être à un moindre pourcentage, ne fonctionnent pas normalement. C'est-à-dire que les enseignants sont mis dans l'impossibilité de pouvoir fonctionner, je dirais par le gouvernement lui-même. Les écoles sont mises dans l'incapacité de pouvoir bien fonctionner. Simplement parce que, apparemment, c'est comme s'il y a un complot contre cette gratuité. Parce qu'il y a des raisons majeures qui expliquent le mécontentement des enseignants sur le terrain. Le premier mécontentement, c'est le réajustement de salaire qui avait été opéré par le gouvernement. Eh bien, ce réajustement était discriminatoire. Aux uns, on a donné 39 000 francs congolais, aux autres 100 000, et aux autres encore 194 000, selon qu'on est au chef-lieu ou encore dans un territoire. Ça, c'est vraiment un problème que nous dénonçons.
Une question, M. Jean Bosco Pouna, est-ce que les enseignants ont touché leur salaire réajusté?
Le salaire réajusté a été bel et bien payé.
À tous les enseignants.
Au grand enchantement des enseignants. Malheureusement, c'est discriminatoire. C'est ce que je viens de décrire.
Okay.
Mais la deuxième raison, c'est la non-allocation des frais de fonctionnement aux écoles. On a bien sûr fait la répartition, mais les frais de fonctionnement n'arrivent pas dans les écoles jusqu'à ce jour. Probablement, c'est fait de manière délibérée. On ne comprend pas qui bloque le processus de décaissement de ces fonds. Comment les écoles doivent-elles fonctionner sans frais de fonctionnement? Ça, c'est une autre raison. Et la troisième raison, c'est la catégorie des enseignants NP et NU. Jusqu'aujourd'hui, cette catégorie d'enseignants continue à travailler comme des véritables bénévoles. Nous ne pouvons pas comprendre cela. Mais il faut également ajouter qu'il y a une catégorie d'enseignants qui touchaient déjà un salaire plus ou moins acceptable, mais qui ont perdu le pouvoir d'achat. Les enseignants qui touchaient, par exemple, 400 dollars, 450 dollars, ont perdu ce pouvoir d'achat, et cela peut les amener à la démotivation. Et donc, nous avons demandé au gouvernement de convoquer les travaux de la commission paritaire pour qu'on examine toutes ces questions. Jusqu'à ce jour, silence radio, ça présage comme si c'était un complot contre la gratuité. Mais nous, nous pensons qu'il faut absolument que l'État revienne à la raison, le gouvernement. Il doit convoquer les travaux de la commission paritaire pour qu'on détermine les barèmes salariales des enseignants et que l'on puisse prendre en compte les NP et les NU. Il y a un autre problème qui se pose dans le secteur, madame, c'est le problème de la mutuelle de santé des enseignants. Vous savez que la plupart d'enseignants en République démocratique du Congo ne bénéficient pas des soins de santé de leur mutuelle. Une décision a été prise depuis le président Kabila, mais qui n'est pas exécutée aujourd'hui, quoique le gouvernement reconnaisse que cette mutuelle est prévariquée et bradée par ceux qui sont là. Voilà autant de problèmes qui expliquent aujourd'hui que les écoles soient mises dans l'impossibilité de travailler.
Alors vous dites que c'est fait apparemment délibérément, par exemple l'allocation des frais de fonctionnement aux écoles, on n'a pas, ça c'est pas encore fait. Est-ce que vous avez contacté le ministère des tutelles pour savoir pourquoi ça n'a pas encore été fait?
Oui madame, mais nous avons rencontré son excellence monsieur le ministre de l'EPST, le ministre des tutelles, depuis le 6 octobre. Et nous lui avons demandé de pouvoir convaincre le gouvernement pour que les travaux de la commission paritaire soient convoqués. Bon, jusqu'alors, nous pensons que ce n'est pas encore un souci, mais les problèmes sont là. Vous voyez les écoles qui débrayent sans mot d'ordre du syndicat. Mais nous sommes en train de nous préoccuper de toutes ces questions pour organiser une grande assemblée générale. Et si les syndicats portent cette histoire-là, mais la gratuité sera mise à mal et ça sera le fait du gouvernement. Comment les écoles peuvent-elles fonctionner sans frais de fonctionnement? Est-ce que le président de la République parle le même langage avec le gouvernement? Ça aussi, c'est une question.
Alors, nous aurions souhaité avoir le ministre de l'EPSP dans cette émission. Malheureusement, il n'a pas souhaité prendre part à ces débats. Une autre question que vous avez évoquée là, c'est la mutuelle de santé des enseignants. Ça pose aussi problème.
Mais véritablement, madame, la mutuelle de santé des enseignants pose problème aujourd'hui. Les enseignants sont les principaux contributeurs. Et à travers la République démocratique du Congo, ça allégerait cette histoire de gratuité. Parce que si l'enseignant est bien soigné, il a un salaire réajusté. Nos amis de Maniema ont parlé, ils ont dit que c'est une utopie. Que non, la gratuité, elle est irréversible parce que c'est constitutionnel. Les parents de Maniema n'ont pas le pouvoir d'achat pour continuer 27 ans après à prendre les enseignants à charge. Nous avons besoin de notre mutuelle de santé. Nous avons rencontré le directeur de cabinet du chef de l'État. Il a promis, en nous faisant voir qu'effectivement, cette mutuelle a été bradée. Mais jusqu'aujourd'hui, eh bien, les décisions du gouvernement ne sont pas exécutées.
Est-ce que
même dans
vous...
les 100 jours du président de la République, cette question était inscrite à l'ordre du jour. Malheureusement, la mutuelle continue à être gérée à la vaille que vaille. Et les enseignants à travers la République ne sont pas soignés.
Alors vous, en tant que syndicaliste, est-ce que vous comprenez un peu cette grogne des enseignants? Est-ce que vous comprenez un peu leur frustration?
La frustration, madame, elle est là et nous comprenons cela. Parce qu'il ne faut pas démotiver l'enseignant aujourd'hui. Donc, si nous allons dans la commission paritaire, ce sont des arbitrages qui seront faits et le gouvernement doit trouver les moyens pour financer sa gratuité. Nous, nous accompagnons cette gratuité parce que c'est à partir des salaires que le gouvernement va donner que nous allons avoir une retraite honorable. Et c'est ce que nous disons à nos amis qui sont dans l'arrière-pays,
merci,
qui peut-être sont en train d'hésiter. Mais il y a aussi les problèmes de SECOP. Les amis ont posé les problèmes de SECOP
dans 6 mois.
Et il y a un mutisme au niveau des autorités. Mais ça ne va pas. On doit redéfinir les missions du SECOP.
Merci Jean Bosco Pouna. On vous redonne la parole tout à l'heure. Jean-Marie Tantoumey, promoteur du Bureau d'Action et d'Éveil Culturel, UNASBEL, d'Éducation Civique et Culturelle. Votre évaluation 2 mois après la mise en application de la gratuité de l'enseignement en RDC.
Dame, de me donner la parole sur cette question, je suis à l'aise, d'autant plus que à la table ronde et à la promotion scolaire, nous avions prévu tout ce qui arrive. Nous avons une expérience de 30 ans dans l'enseignement secondaire, primaire, technique. Tout ce qui arrive était prévu. Maintenant, je suis content d'entendre mon cher frère Pouna dire ce que j'avais prévu il y a 2 mois. Il pensait que moi j'étais contre. Je suis content de l'entendre cela. 2 mois après, quelle est la situation? Vous voyez l'ébullition. D'abord, nous devons dire la gratuité n'est pas une faveur d'un régime ou du gouvernement aux parents. C'est un devoir constitutionnel, régalien, et ce n'est qu'un processus. Nous n'avons pas encore la gratuité, non, les fournitures scolaires, les objets scolaires, les uniformes sont achetés par les parents. Il n'y a encore rien qui est gratuit. C'est un petit allègement. Alors, sur le terrain, ce qu'il y a, c'est quoi?
Il faudra bien commencer quelque part.
Que l'État, madame, s'il vous plaît, l'État qui a la volonté par le chef de l'État doit aller jusqu'au bout. Il faudrait qu'on donne aux enseignants le minimum. On ne peut pas, quand on a un salaire, le réduire. Le salaire, on peut l'augmenter. Les droits acquis, on peut les améliorer. On ne les réduit pas. Or, l'État n'a pas encore les moyens de donner ce qu'il faut à certains enseignants de certaines écoles qui avaient plus de $500. Ceux qui se réjouissent, ce sont des écoles qui avaient moins de 150, 200, où la contribution des parents était payée difficilement. Ces enseignants-là, bien sûr, ils sont nombreux, ils sont contents. Mais est-ce que, à la rentrée scolaire, suivez mon regard, quelles sont les écoles qui attirent les parents? Quelles sont les écoles où on se bat pour inscrire les enfants? Ces écoles-là sont maintenant en difficulté parce que leurs enseignants ont perdu une partie. Nous ne demandons pas que les parents reprennent ce calvaire, mais que l'État puisse réduire les sources de détournement, les fuites, les vols. Ce n'est pas l'argent qui manque, madame. L'argent, il y en a.
Parce que vous pensez qu'il y a, vous estimez qu'il y a des détournements?
C'est que les fonctionnaires, les agents politiques se mettent plein la poche, plein l'enseignant, pour un petit monsieur qui n'a droit à rien. On croit que pour l'enseignant, $200, c'est beaucoup. $300, c'est beaucoup. Donc, sur le terrain aujourd'hui, il y a une difficulté. L'autre difficulté, les nouvelles unités, les agents valides étaient payés grâce aux parents. Maintenant que les parents ne peuvent plus payer, ces agents ne seront plus payés. Les invalides continuent à être payés par l'État, or ils sont invalides. D'ici 2 mois, il risque d'avoir encore un blocage parce que les invalides ne travaillant pas, les valides vont gréver, ils ne vont pas travailler. La solution est que le chef de l'État puisse bien suivre, qu'il y ait un comité de suivi de la gratuité, entre guillemets, où se retrouvent nous les partenaires éducatifs, ceux de l'EPSP ainsi que les parents, pour voir comment juguler dans des séances à huis clos, observer ces problèmes. Quant aux grèves qui sont par-ci par-là, nous invitons nos frères enseignants à ne pas donner prétexte au gouvernement, dire que non, ils sont contre la gratuité. Attention, qu'on ne puisse pas vous faire mettre sur les dos la non-réussite de la gratuité, n'assumez pas cette charge. Et quand vous grévez, les enfants qui souffrent sont des enfants des pauvres, ce n'est pas les enfants des ministres. Attention, reprenez le cours, discutons pour l'application de la gratuité, entre guillemets, mais n'allez pas en grève, sinon vous donnerez prétexte aux politiques qui cherchent comment ne plus appliquer la gratuité.
Alors Jean-Marie Tantoumey, merci.
C'est ce qu'ils ont amorcé.
Alors Jean-Marie Tantoumey, il y a par exemple l'association des parents d'élèves des écoles conventionnées protestantes dans la province province éducationnelle Nord Kivu 2. Nous sommes là à Butembo qui envisage de mettre en place un mécanisme de paiement des enseignants en nouvelle unité par les parents afin de les encourager pendant que leurs dossiers sont encore en train d'être traité, madame. Laissez-moi poursuivre, s'il vous plaît. Pendant que leurs dossiers sont en train d'être traités par le gouvernement pour leur prise en charge, c'est une façon pour eux d'appuyer le programme de la gratuité de l'enseignement, mais également éviter la grève des enseignants dans le réseau éducationnel.
Madame, On ne peut pas éviter la grève en demandant encore aux parents de contribuer. Non, N-O-N. Les dirigeants doivent s'assumer. Ils ont de l'argent, qu'ils cessent de détourner, qu'ils payent bien les enseignants. Par exemple, vous savez, il y a une incompréhension. C'est parce que les inspecteurs, tous ceux de l'EPSP, ne prennent pas le courage d'affronter les enseignants pour leur expliquer. Il y a beaucoup d'incompréhension. Prenons le cas du Mohamba. Les écoles d'application Mohamba, IPEN, ISP Gombe. Ces écoles ne sont pas de l'EPSP. Elles n'ont pas droit à la gratuité, entre guillemets. Mais certains parents intoxiqués vont au Mohamba dire non, c'est la gratuité. Le Mohamba répond de l'enseignement supérieur et universitaire. Il a un autre statut. Mais les gens vont en grève. Tout cela pourquoi? C'est-à-dire quoi? Beaucoup de citoyens ne sont pas bien cultivés. Ils n'ont pas l'esprit critique. Le politique qui a voulu manipuler la population, qui ne veut pas qu'il soit bien critique, voilà maintenant que les gens sont manipulables et ce sont encore les dirigeants politiques qui sont en train de souffrir.
Merci, M. Tantoumé. Merci. Je veux vous redonner la parole tout à l'heure. Raymond Kiabongos, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Mbandaka.
Christelle Nzoko de Pimbandaka. Seule la volonté politique et les bonnes intentions ne suffisent pas. Il faut en outre la planification et les mesures d'accompagnement efficaces pour la réussite. Certes, la gratuité de l'enseignement est une bonne chose que tout Congolais souhaite de tout cœur, mais force est de constater qu'au préalable, la planification n'était pas faite de manière objective. Voilà pourquoi nous vivons les mouvements de grève un peu partout.
Raymond Kiabongo.
Oui, madame. D'abord, je réfute le fait qu'on voit des mouvements de grève un peu partout. C'est une forme d'exagération. Et souvent, j'ai tendance à percevoir une certaine coloration politique quand j'entends ces débats sur la gratuité. En fait, c'est comme si, en réalité, on replaçait les débats dans un contexte qui n'est pas le sien. Qu'est-ce qu'une planification? Est-ce que monsieur sait qu'il existe une stratégie sectorielle pour l'éducation et la formation depuis 2016, de 2016 à 2030. Il y a une stratégie qui existe, il l'a jamais lu. Et donc la stratégie, elle a des axes d'intervention. Et l'axe d'intervention le plus important, c'est la gouvernance, madame. Tout ce que vous êtes en train d'entendre parler maintenant, en ce moment, au fait, c'est une mauvaise gouvernance. Madame, vous avez aujourd'hui, au fait, la réforme, elle fait toujours face à une résistance par rapport aux gens qui bénéficiaient de certains acquis dont ils ne veulent pas se départir. L'argent qui était versé par le parent au niveau de l'école en termes de frais scolaires et tout ça était géré dans l'opacité la plus totale. Et cet argent a permis d'enrichir un pas important du système éducationnel. Et vous pouvez même vous rendre compte que cet argent était reversé même au niveau du ministère. C'est-à-dire que le parent faisait face à ce que je peux appeler aujourd'hui un impôt direct forcé. Il prenait même en charge les structures de l'État. Madame, revenons à la manière d'un fonctionnement normal comme dans tout pays civilisé, où en réalité il y a une école publique. Et donc, le fait que le chef de l'État ait eu cette volonté, c'est vrai, la volonté politique ne suffit pas. Il faut d'abord en avoir cette volonté-là. Parce que s'il n'y a pas cette volonté, il n'y a pas une amorce d'une quelconque réforme. Et donc la volonté, elle est là, elle est, c'était bien qu'elle soit là. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir voir maintenant? Et c'est vrai, je suis d'accord avec mes prédécesseurs qui ont parlé avant moi, il faudrait instaurer une bonne gouvernance à tous les niveaux. Madame, et la bonne gouvernance part aussi du budget de l'État. Nous avons un budget qui est voté à tel montant, je donne un exemple, 100% du budget voté, 46% du budget exécuté. Comment voulez-vous que le système éducationnel puisse être pris en charge au niveau de l'État? Ce sont tous ces problèmes d'ordre, de gouvernance, auxquels il va falloir faire face pour que tout simplement le système éducationnel aujourd'hui puisse être pris en charge par l'État parce que ça rentre dans le cadre de ses prérogatives. Et là, on est en train de parler de l'enseignement des bases. Cet enseignement qui commence la première année primaire jusqu'à la huitième. C'est une réforme aussi importante, madame. Et vous allez voir même dans les systèmes éducationnels, beaucoup de gens ne connaissent même pas cette réforme sur l'enseignement de base. C'est quoi l'idée en réalité? L'idée, c'est de faire que l'enfant, tout enfant congolais, parce qu'on va essayer de pouvoir atteindre l'objectif des ODD 4, puisse
avoir l'accès à la première année primaire. Mais qu'on puisse maintenir cet enfant dans le système éducatif jusqu'à la huitième.
Oui, mais il faudra aussi que cet enfant puisse étudier dans de bonnes conditions.
Je suis d'accord avec vous, Madame Coupé. Les bonnes conditions, ça veut tout simplement dire, et c'est ça, je l'ai reconnu tout au départ, la pression démographique telle qu'elle est aujourd'hui est en train de faire face à une infrastructure insuffisante. Et donc, pour cela, dans le cadre de l'étude que je viens de terminer avec la Banque mondiale, nous avons proposé, par exemple, spécifiquement pour les infrastructures, à ce qu'on puisse revenir à la décision, parmi les, je crois, la décision qui a été prise par le gouvernement précédent, de la construction de 1000 écoles par an. Et donc là, en 2030, on arriverait à résorber cette demande d'une manière un tout petit peu drastique que si l'on ne faisait rien pour l'instant.
Donc, alors, Jean de Dieu, il y a cet auditeur, hein, Raymond Kabongo, Jean de Dieu Lusenge, qui nous écrit depuis Butembo, qui dit ceci, la gratuité est une bonne chose, mais seulement elle est mal partie. Il fallait d'abord mécaniser tous les enseignants, octroyer les frais de fonctionnement conformément aux classes organisées, payer tous les agents d'appoint, construction des écoles. Au stade actuel, ça sera un peu compliqué de mettre en place effectivement cette gratuité.
Je suis d'accord, mais ce dont sur lequel je ne partage pas l'avis, c'est sur lequel qu'il ne fallait pas commencer. J'ai entendu, c'est la phrase que vous avez lancée tout à l'heure, il fallait commencer quelque part. Aujourd'hui, il y a plus, je veux dire, de la joie au niveau des parents. C'est pourquoi d'ailleurs on a aujourd'hui des écoles pléthoriques. Pourquoi ? Ces parents, ces cultivateurs du fin fond, je ne sais pas de quel village de la RDC, a aujourd'hui la capacité d'envoyer son enfant à l'école sans se préoccuper du fait qu'il doit payer un seul centime. Madame, je préfère qu'on commence comme ça. Il ne faut pas qu'on ait une école sélective dès la première année primaire. Ça serait l'injustice la plus totale qui puisse exister. On commence par cela, madame.
Merci.
Aujourd'hui, avec ce qui se fait aujourd'hui, je vais dire, on va faire face à beaucoup de difficultés, j'en conviens. Et c'est ça aussi la force de la politique.
Merci, Raymond Kabongo.
Résoudre ces problèmes et comment avancer.
Jean Bosco Poulain, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Kananga, au Kasaï Central.
Guidola Inorbert à Kananga, au Kasaï Central. À mon avis, la gratuité de l'enseignement n'est pas une mauvaise chose. C'est là pour deux raisons principales. D'abord, c'est un principe qui est contenu dans notre constitution. Donc, c'est pas une invention. Et deuxièmement, cette gratuité de l'enseignement permet d'alléger la tâche aux parents qui, du reste, prenait en charge les enseignants à l'époque. Ce qu'il faut condamner, vu tout ce mouvement de grève à travers certaines provinces de la RDC, ce sont des mesures d'accompagnement qui n'ont pas été prises afin de voir l'effectivité de cette gratuité. Car une chose est d'annoncer cette mesure de gratuité et une autre est d'avoir des moyens conséquents à allouer à ce secteur. Enfin, les enseignants ne doivent pas sacrifier l'éducation de nos enfants. Comme le disait Mobutu, le Congo de demain sera ce que nous faisons de nos enfants aujourd'hui. Les enseignants doivent mettre un peu d'eau dans leur vin et le gouvernement central doit multiplier des efforts afin de répondre aux désidératants des enseignants.
Les enseignants doivent mettre un peu d'eau dans leur vin, les gouvernements doivent multiplier des efforts afin de répondre aux désidératants des enseignants. Jean Bosco Poulain, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, madame. Une grève qui ne requiert pas la solidarité de tous les enseignants n'apporte pas grand-chose. Donc, notre cri de cœur aujourd'hui, c'est de dire aux camarades enseignants que les prétextes, comme l'a dit Tantoumé tout à l'heure, il ne faut pas donner les prétextes au gouvernement pour que nous retombions dans les travers de la prise en charge des enseignants par les parents. L'éducation est un droit fondamental. Et donc, chaque enfant, où qu'il se trouve, en ville ou au village, eh bien, il doit bénéficier d'une éducation publique de qualité. On venait de parler du programme 1000 écoles avec la Banque mondiale, etc. Mais je crois que le moment est venu pour faire le bilan, l'évaluation des 1000 écoles passées. Parce qu'il y a 5 ans, on devrait avoir aujourd'hui 5000 écoles. Or, à ce jour, on n'avait construit que près de 500 écoles. Qu'est-ce qui nous rassure que demain, à l'horizon 2030, on pourra avoir les 1000 écoles multipliées par le nombre d'années? On doit absolument être responsable en ce qui concerne l'éducation. Donc, nous pensons pour notre part que la grogne des enseignants, elle est là, elle est perceptible. Nous avons donné des propositions au gouvernement. Il faut absolument qu'on se retrouve dans un dialogue sincère pour qu'on résolve les problèmes des enseignants et des écoles. Et la gratuité, à notre sens, elle est irréversible. Ça s'entend quoi? C'est-à-dire que tous les acteurs, que ce soit les acteurs politiques ou sociaux, plus jamais la prise en charge des enseignants par les parents. Je suis désolé qu'on parle des écoles qui sont rattachées aux universités, que ce soit le groupe scolaire Moamba ou encore l'EDAP ou encore l'ITEMAT. Ce sont des écoles qui, bien sûr, ont le statut de l'enseignement supérieur, mais qui sont payées par les trésors publics. Et les élèves qui sont là ne peuvent pas être discriminés, parce que ce sont les mêmes parents, ce sont les mêmes élèves. Il faut absolument qu'on ne donne pas à ces écoles-là une brèche, sinon ça sera un effet d'entraînement. Il faut que le ministre de l'EPST veille et les mesures d'accompagnement doivent être rapidement prises en compte. Voilà pourquoi nous avons lancé l'observatoire. Il faut que nous tous nous contribuions pour que cette gratuité réussisse, parce qu'il en va du bonheur de tous les enfants congolais.
D'où la convocation des travaux de la commission paritaire est importante.
Importante, on ne peut pas éviter cela. C'est vrai que le gouvernement parle des moyens, mais tout ce qui a été donné à l'enseignant a été décidé par voie d'autorité. Vous pouvez comprendre un enseignant qui a qui quitte, le salaire réajusté c'est 39 000 francs congolais, donc plus ou moins 20 dollars. Ça ne marche pas, c'est discriminatoire, quelles que soient les raisons que le gouvernement avancera. Et donc, nous accompagnons la gratuité, mais il faut absolument que nous ayons les travaux de la commission paritaire pour que nous tous, nous puissions décider du sort de l'enseignant et de nos écoles. L'État ne peut pas s'arroger le droit de pouvoir imposer ce qui s'impose aujourd'hui. Et voilà pourquoi nous avons tous ces remous, ça et là. Nous ne pouvons qu'accompagner la gratuité, mais à condition que les travaux de la commission paritaire soient convoqués incessamment.
Merci Jean Bosco Puna. Jean-Marie Tantoumeyono, c'est une réaction pour vous qui nous vient de Lubumbashi.
C'est Patrick Mbouni, Kassama depuis Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Je crois que le début de chaque chose est toujours difficile, et cela ne peut à aucun cas décourager les autorités à mobiliser les moyens pour l'effectivité de cette réforme qui doit être encouragée par tous. Bien qu'il y a des voix qui se lèvent presque partout, mais les uns et les autres, on doit être patient. Ceux qui grèvent ça et là font preuve de manque d'amour. C'est comme s'ils ne sont pas parents. Je pense que l'évaluation que l'on peut faire est positive sur l'ensemble du territoire national. Et nous invitons le président Tshisekedi, qui est le garant de cette réforme, à poursuivre ses efforts pour que la gratuité de l'enseignement ne suive pas de rien du
tout. Jean-Marie Tantoumeyi.
Merci beaucoup. Ceux qui grèvent n'ont pas tort. C'est un message fort qu'il lance au gouvernement. Le gouvernement doit saisir ce message, tout en les invitant à reprendre le cours. Mais leur message a été très fort et c'est important. On ne peut pas, dans la vie de quelqu'un, réduire les droits acquis et le salaire. Le salaire, on l'améliore, on ne le réduit jamais. C'est un problème réel. À Lubumbashi, une école comme l'IRA, où les enseignants avaient 800 dollars, 700, vous leur demandez de diffuser 500 dollars, vous voulez qu'ils soient contents, ça ne se fait jamais. Quand les politiques se précipitent aux fonctions de vice-premier ministre, ministre d'État, ministre, chef de l'État, pour avoir beaucoup d'argent, vous voulez que celui qui les a formés reste dans une coquille vide parce qu'Azali Moulakissi. Non, c'est le pays à nous tous. Nous invitons tout le monde à être sincère. Nous voulons non pas une parité, non pas des assises paritaires, syndicats, gouvernement. Des assises où se retrouvent les gestionnaires, donc l'État, les dirigeants du gouvernement, les syndicalistes, les associations des parents et nous autres. C'est un problème plus que du salaire. On doit être dans un triumvirat. Ce n'est pas question de parité parce que souvent les syndicats, quand ils vont à ces assises-là, parfois aussi, ils trahissent leurs collègues enseignants. Ils vont pour eux-mêmes se renflouer les poches. Ce n'est pas tous, mais c'est souvent cela. Donc nous disons, il y a des problèmes réels. Nous avions prévu que les 3 mois soient une période transitoire. Pendant cette période, l'État doit être assez souple, les enseignants et les gestionnaires. Il ne faut pas qu'on puisse sanctionner les gestionnaires pour rien. Par exemple, les envoyer dans les arrêter par la police criminelle
comme si c'était des criminels, les Kuluna circulent, on arrête de cet établissement qui soit de Kuluna. Soyons souples, une réforme entraîne beaucoup de problèmes.
Merci.
Soyons souples tous, comprenons-nous, analysons calmement dans une salle sans la presse. Nous arriverons à trouver.
Merci, Jean-Marie Tantoumey. Raymond Kabongo, qu'est-ce que vous pensez de la convocation que demandent les syndicalistes, une convocation rapide des travaux de la commission paritaire justement pour pouvoir trouver des solutions à tous ces problèmes qui rongent l'enseignement, la mise en application effective de la gratuité de l'enseignement?
Pour moi, toute assise, toute convocation d'un groupe d'intérêt, et aussi en face avec l'État qui régule toutes ces choses, ne peut être que bénéfique pour moi à tout point de vue. Partout où les gens iront pour discuter avec l'idée de trouver une solution à une difficulté qui se pose, je ne vois pas en quoi on peut se mettre en désaccord par rapport à ces demandes-là. Et donc je pense, c'est à quoi moi je vais peut-être faire allusion ici.
Ça sera aussi votre conclusion.
Merci beaucoup madame. D'abord c'est d'éviter de politiser ces débats. C'est un débat qui n'est pas dans ce domaine-là. Il y a eu une volonté politique. Il faudrait maintenant que tous les gestionnaires, tous ceux qui sont concernés dans le secteur éducationnel, puissent prendre à bras le corps cette réforme et savoir comment est-ce que nous pouvons l'amener au bout. Pourquoi ?
Merci.
Parce qu'il en va effectivement de cette façon. Madame, j'aurais précisé.
Rapidement, on n'a plus beaucoup de temps.
Les $500 qu'on payait aux parents, pourquoi aux professeurs dans certaines écoles, pourquoi est-ce qu'on peut avoir un système aussi discriminatoire que celui-là ? Si ces gens sont payés par l'État dans une école qui est conventionnée, qui est publique, tous doivent avoir pratiquement le même salaire.
Merci. Merci Raymond.
Merci beaucoup, madame.
Merci Raymond Kabongo. Jean Bosco Foula, en 30 secondes, votre conclusion.
Oui, donc tout en saluant la volonté politique affichée par la nouvelle gouvernance politique, nous demandons que les travaux de la commission paritaire puissent être convoqués et à ces travaux, on doit avoir également les représentants des provinces. Mais nous demandons également que la mutuelle, la gestion de la mutuelle de santé soit confiée au comité de crise parce que ces problèmes avaient déjà été résolus.
Merci.
Et puis, la réduction des trains de vie, de ceux-là, il faut absolument que nous partagions, nous tous, les sacrifices de la gratuité.
Merci Jean Bosco Pouna, Jean-Marie Tantoumey.
Merci beaucoup. Nous souhaitons qu'on respecte les gestionnaires qui sont éducateurs. Ils ne sont pas criminels. On ne peut pas leur envoyer la police criminelle pour un petit manquement. Que surtout le chef de l'État puisse mettre en place
Merci.
Un comité de suivi qui comprend les...
Merci Jean-Marie Tantoumey. C'est la fin de cette émission. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.